RFI, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Diane Berger.
Plus que 4 heures avant le top départ du Vendée Globe, 40 navigateurs se lancent pour un tour du monde en solitaire. Sans escale ni assistance, nous serons en direct dans un instant avec notre reporter Thomas de Saint-Léger, près de la ligne de départ. Ensuite, direction Tel Aviv, auprès des manifestants qui réclament la libération des derniers otages du Hamas. Le gel de la médiation du Qatar les inquiète particulièrement, vous l'entendrez. L'actualité ce dimanche, c'est aussi le vote des électeurs mauriciens, appelés aux urnes pour les législatives et en République démocratique du Congo, les propositions qui émergent des états généraux de la justice. Le gendarme des finances publiques appelle notamment à la création d'un parquet dédié pour les crimes financiers. C'est le grand jour pour les skippers du Vendée Globe, l'une des plus grandes courses du monde, un tour du monde en solitaire à la voile, sans escale, sans assistance. Ils partent dans 4 heures depuis les Sables d'Olonne dans l'ouest de la France. Sur la ligne de départ, ils sont 40. Les plus rapides devraient revoir leur famille dans un peu plus de 2 mois après un périple éprouvant. Et nous retrouvons tout de suite sur place notre reporter Thomas de Saint-Léger. Bonjour Thomas.
Bonjour Diane.
Vous êtes sur le ponton où les skippers font leurs adieux à leurs proches et ils viennent de quitter le port pour rejoindre la ligne de départ.
Oui, c'est un moment extrêmement touchant, comme ça, dans la brume du lever du jour, le dernier contact avec la terre, les dernières étreintes avec les proches. On a vu, par exemple, l'un de ces skippers, Sébastien Marcet, expliquer en pleurs à ses petits, voilà, que papa partait pour peut-être 3 mois, seul face aux mers les plus hostiles. Il y a donc des pleurs, beaucoup d'émotions qui se mêlent les unes aux autres pour ces hommes, ces femmes qui vont devoir s'habituer à la solitude, au manque de sommeil, à la fatigue mentale, physique, qui réalise aussi maintenant que ça y est, la course va partir. Être au départ, c'est déjà une aventure, hein. Vous le savez, c'est un projet avec une équipe, des financements qu'il faut rassembler. Et voilà maintenant le moment de larguer les amarres, de prendre un dernier shot d'encouragement quand même avec la descente du chenal des Sables d'Olonne où 400 000 personnes, 10 fois la population de cette ville, sont rassemblées en faisant sonner, vous l'entendez derrière moi, les cornes de brume pour pousser ces navigateurs, ces navigatrices pour leur souhaiter bonne route ou plutôt bon vent, comme on dit dans le langage des marins.
Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger du service des sports de RFI en direct des Sables d'Olonne. On le rappelle, le départ du Vendée Globe, c'est à 12h02 en temps universel. Dans l'actualité française également, eux aussi commencent un périple périlleux. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, en route vers la Nouvelle-Calédonie, 6 mois après le début des violences. Leur objectif, relancer le dialogue avec les acteurs de l'archipel français. La guerre continue au Proche-Orient. À Gaza, la défense civile palestinienne annonce la mort de 30 personnes, dont 13 enfants, tués par 2 frappes israéliennes. Et les espoirs de cesser le feu sont bien lointains. Le Qatar suspend ses efforts de médiation entre Israël et le Hamas. L'Émirat reproche aux 2 parties leur manque de volonté. La droite israélienne se félicite de cette décision, mais les familles d'otages et ceux qui manifestent tous les samedis en faveur d'un accord qui permettrait leur retour ne sont pas du même avis. Reportage de Michel Paul.
Maintenant, plus que jamais, maintenant, lancent les manifestants rassemblés non loin de la résidence du Premier ministre israélien à Jérusalem pour réclamer la libération des otages. Après la décision qatarienne de geler les efforts de médiation entre Israël et le Hamas, les avis sont plus que partagés. Israël Kemo, lui, est plutôt pessimiste.
D'instinct, je dirais que c'est une bonne chose, mais quelqu'un doit servir de médiateur. Je n'ai pas confiance dans la réaction du Hamas. Je crois malheureusement qu'ils sont plutôt contents de la situation telle qu'elle est.
Pour Lorraine, la médiation du Qatar était de toute façon vouée à l'échec.
À ce stade, j'ai perdu tout espoir qu'il y ait dans les deux camps quelqu'un qui veuille négocier pour la libération des otages. Alors je crois que cela n'aura pas d'influence.
Quant à Ophir, il pense que toutes les options sont maintenant ouvertes.
A priori, c'est triste et c'est dommage. C'est peut-être un obstacle qui va torpiller le tout. Ou alors, au contraire, cela fera bouger les choses, je ne sais pas. Mais il faut espérer.
Depuis maintenant plus de 400 jours, 101 otages sont toujours retenus à Gaza et la guerre dans l'enclave palestinienne se poursuit. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Dans le reste de la région, les États-Unis ont mené des frappes au Yémen sur des installations appartenant aux rebelles Houthis, alliés du Hamas. En Syrie, des raids israéliens ont tué 4 combattants pro-Iran hier. Et au Liban, les frappes de la seule journée d'hier samedi ont causé la mort de 33 personnes au sud et dans l'est du pays. 1 million de Mauriciens appelés aux urnes ce dimanche dans l'océan Indien, séjour de législatives anticipées. La bataille pour le pouvoir se joue entre 2 coalitions, l'Alliance du Peuple du Premier ministre actuel, Pravind Jugnauth, et l'Alliance du Changement de Navin Ramgoolam. Les états généraux de la justice se poursuivent en République démocratique du Congo. Plus de 3000 participants à Kinshasa, en majorité des acteurs judiciaires réunis pour réfléchir aux évolutions du secteur, jugé malade par le président Félix Tshisekedi. Hier samedi, l'inspecteur général des finances a appelé à des réformes importantes, notamment la fin de l'immunité des membres du gouvernement et la mise en place d'un parquet financier. Pascal Moulégois.
Gilles Alinguété, le gendarme des finances publiques, soutient la création d'un parquet financier pour lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Des infractions que les magistrats des juridictions ordinaires peinent à réprimer, Gilles Alinguété plaide donc pour une juridiction spécialisée.
Nous avons affaire à des magistrats qui, dans leur profil de formation, avaient peur de la comptabilité, des chiffres, des finances publiques. Et aujourd'hui, la réalité, les détournements, la corruption, c'est au travers de la comptabilité, au travers des finances publiques, au travers des chiffres. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il faut créer un parquet financier où on aura des magistrats spécialisés, formés dans les infractions sur la criminalité financière.
L'inspecteur général des finances va même plus loin. Il estime que la justice est mise à mal par l'immunité dont profitent les membres du gouvernement.
Les membres du gouvernement gèrent 80% des ressources. Par conséquent, ils deviennent des cibles de contrôle. Mais ces gens-là sont immunisés. À ce moment-là, même la justice et même les organes de contrôle, nous devenons de plus en plus impuissants devant cela. Donc il faut penser à régler ces problèmes.
En attendant, Jules Alinguété explique gérer un contrôle préventif. Il s'agit d'une patrouille financière qui vise à empêcher tout détournement et à alerter à la moindre détection d'actes de corruption. Pascal Moulégois, Kinshasa. RFI.
La Russie annonce ce matin avoir abattu la nuit dernière 25 drones ukrainiens qui volaient en direction de Moscou. C'est l'une des attaques de ce type les plus importantes contre la capitale russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Au Chili, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis presque 2 ans. Une explosion du coût de la vie, expliquée en partie par la hausse des prix de l'énergie. En effet, le pays avait mis en place un gel des tarifs de l'électricité pendant 5 ans, mais le gouvernement chilien y a mis fin en juillet dernier. Et les conséquences sont très concrètes au quotidien pour les habitants. Naïla Derouané l'a constaté à Santiago.
En l'espace de 2 mois, Sandra a vu sa facture d'électricité doubler.
Avant, je payais 18 à 20 euros par mois. Aujourd'hui, je dois payer environ 40 euros.
Et avec son salaire minimum, toutes les économies sont bonnes à faire.
J'utilise moins la bouilloire, le fer à repasser ou encore le micro-ondes. Et j'éteins la lumière plus tôt dans la journée.
Sandra a eu droit à une aide financière de l'État pour faire face à cette hausse des tarifs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ça affecte le porte-monnaie, dit Rainel.
Au lieu d'aller dans un café ou au restaurant ce soir, on a préféré venir au parc avec le chien.
Dans son appartement, il a également installé quelques gadgets pour diminuer la consommation d'électricité.
On a mis des interrupteurs automatiques qui se chargent à l'énergie solaire et on programme aussi le chauffe-eau pour qu'il ne s'allume que 2 fois dans la journée.
D'autres encore ont pris des décisions plus drastiques, comme Francisco. Il a vendu son restaurant et s'occupe désormais de livrer des repas lors d'événements.
Comme ça, on n'a pas de loyer, ni de coût fixe. On finit le travail et ça s'arrête là, jusqu'au prochain événement.
Une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité est attendue dans 2 mois au Chili, en janvier prochain. Naïla Derouané, Santiago, RFI.
L'électricité également au cœur des tensions à Cuba. Le parquet général annonce l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de troubles à l'ordre public après les manifestations liées aux nouvelles coupures de courant pendant 2 jours sur le passage de la tempête Raphaël. Et puis enfin aux États-Unis, c'est maintenant confirmé, Donald Trump a fait un carton plein dans tous les swing states, les états clés qui permettent de faire basculer la présidentielle. Les résultats définitifs sont tombés en Arizona et là encore, c'est le républicain qui a gagné. C'est la fin de ce journal, merci d'écouter. C'est RFI.